Il est 18h15 à Niamey, c'est l'heure du forum Dissidio Kalangou. Madame, messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité au programme Dissidio Kalangou qui sont diffusés en direct par 41 radios partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. Des programmes aussi disponibles sur notre page Facebook Dissidio Kalangou, notre site internet www.dissidiokalangou.org et sur WhatsApp. Aujourd'hui, le forum Dissidio Kalangou tentera de répondre à la question du comment poursuivre le processus d'enrôlement biométrique dans le contexte de la maladie du COVID-19 au Niger. Selon un article de l'agence nigérienne de presse ANP, publié le 4 avril dernier en raison des mesures préventives prises par le gouvernement nigérien dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus, la Commission électorale nationale indépendante CENI décide de la suspension des opérations d'enrôlement biométrique dans la région de Niamey. En effet, dans un communiqué signé par son président Maître Issa Kassouna, il a expliqué que cette décision de la CENI est dictée par les circonstances sanitaires qui prévalent dans la région de Niamey. Il s'agit donc pour cette institution de se conformer aux mesures de prévention et de sécurité prises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre cette pandémie. Le pays tout entier étant sous état d'urgence. Selon le communiqué, les opérations reprendront dès que les circonstances le permettront. Avec nos invités, nous allons chercher à comprendre le bien fondé ou non de l'arrêt du processus d'enrôlement biométrique pour cause de COVID-19 à Niamey. Pour ce faire, nous avons dans ce studio A Adamou Idé, secrétaire à la communication du bureau politique national du MNSD Nasra, un parti de la mouvance au pouvoir. Adamou Idé, bonsoir.
Bonsoir, Mokhtar.
Bana Ibrahim du Modène FA Lumana, membre du Front pour la restauration de la démocratie et de la défense de la République, FRDDR, opposition politique, s'entend. Bana Ibrahim, bonsoir.
Bonsoir, Mokhtar.
Au téléphone, Hambali Dodo, au président du CPNP Afrikawa, membre de la coalition des partis politiques non affiliés. Hambali Dodo, bonsoir.
Bonsoir, Monsieur Mokhtar.
Nous avons également invité la Commission électorale nationale indépendante CENI, mais aucun représentant dans ce studio. Adam Idé, on va commencer avec vous. Qu'est-ce que sait-on et que peut-on retenir au sujet de l'enrôlement biométrique au Niger?
Bien, donc... Merci, Mokhtar. Je profiterai de toi pour remercier également, au nom de mon groupe, tout le personnel du studio Kalangou, qui fait un effort extraordinaire pour que nous soyons entendus dans le pays. Je crois que coup de chapeau à vous. Maintenant, par rapport à votre question, je crois qu'il faut d'abord dire que dans le passé, notre pays, le Niger, a connu un fichier classique. Aujourd'hui, ce fichier classique, à travers le monde, est devenu obsolète.
Périmé.
Donc, c'est une pratique qu'il faut abandonner. Il faut l'abandonner vraiment au diapason du contemporain.
De l'évolution du monde.
C'est ça, le diapason du contemporain. Et c'est pour cette raison que maintenant, évolution s'entendant, au Niger, nous avons opté pour l'enrôlement biométrique, qui consiste à connaître les détails physiques et biologiques de l'électeur. Donc c'est pour cette raison que nous nous sommes dit, pour éviter les tricheries du passé, les amalgames, n'est-ce pas, les désordres électoraux, il faudrait abandonner l'ancienne pratique et revenir à la nouvelle pratique qui donne les détails biologiques et physiques de l'électeur. Et c'est ça, l'enrôlement biométrique. C'est un recensement qui donne les détails sur le physique et la biologie de l'électeur. Les physiques, c'est quoi? C'est les photos, c'est les empreintes digitales, n'est-ce pas, qu'on peut observer. Donc, il ne peut pas avoir ni doublon, ni triplon, ni autre chose. Et il faudrait préciser également que, franchement, c'est l'enrôlement qui est biométrique. Je crois que le vote, le jour du vote, ce n'est plus de la biologie. Ce n'est plus plutôt biométrique. C'est votre physique, vous êtes là, vous venez, il y a la liste avec les photos et tout, et les détails, et on vous permet de voter.
Donc pas de fraude selon
les normes. On pense qu'il faut limiter, on pense qu'il faut qu'à ce sujet, n'est-ce pas, les fraudes seront limitées. Les fraudes seront limitées. En tout cas, les partis politiques sont appelés à veiller sur ce processus.
La régularité.
Pour qu'il n'y ait pas de triche. Il faut accompagner la CENI, mais il faut aussi surveiller la CENI, surtout les agents électoraux. Et je crois qu'il faudrait qu'on soit prudent. Nous, acteurs politiques, c'est à nous de veiller à la régularité, n'est-ce pas, et à la conformité de cet enrôlement-là.
Mais pour
la régularité et la conformité, pourquoi? Parce que nous ne cessons de le dire. Les élections sont aujourd'hui, l'organisation des élections est de l'apanage spécifique de la CENI, une CENI indépendante. Le code électoral est là pour prévoir toutes les dispositions qui vont encadrer, n'est-ce pas, cet enrôlement-là. Et il est donné quitus au président de la CENI de prendre des arrêtés complémentaires pour pouvoir, n'est-ce pas, bien cadrer et cet enrôlement. Donc c'est comme ça que personnellement je vois comment évolue le processus électoral au Niger. Dieu merci, dans un premier temps, il y a eu la première partie qui a été faite. Maintenant, actuellement, nous sommes dans la deuxième partie. Bon, c'est cette partie-là que nous allons surveiller. Et aujourd'hui, nous allons évoquer comment cette partie-là est en train d'évoluer.
Donc, Adamou Idé, vous êtes déjà satisfait de l'ensemble du processus d'enrôlement biométrique?
Moi, je ne dis pas que nous sommes déjà satisfaits. Non, c'est la fin qui justifie les moyens. Nous ne sommes pas, nous n'allons pas dire directement que nous sommes satisfaits. Et pour preuve, vous êtes là au Niger, vous avez vu que deux fois nous avons transmis deux lettres d'inquiétude.
Ça, c'est le MNSD avéré. Qui parle.
C'est le MNSD qui parle. Deux lettres avérées que nous avons envoyées à la CENI pour lui mentionner des irrégularités que nous sommes en train de constater au niveau, n'est-ce pas, de certaines poches d'enrôlement.
Et ça a été pris en compte.
Et je crois que ça a été pris en compte. Et je crois que, vu la situation qui prévaut, nous pouvons dire que le processus est en train d'évoluer. Mais ce n'est pas fini. Nous n'allons pas chanter victoire, puisqu'il y a beaucoup d'étapes. En dehors de l'enrôlement, quand finit l'enrôlement, il faut l'affichage. Et c'est au niveau de l'affichage.
Les réclamations.
Oui, les réclamations. Les corrections. C'est là-bas que nous allons constater les défaillances. Parce qu'aujourd'hui, moi, personnellement, qui ai suivi, moi, je m'inquiète de l'application de l'article 201 du Code électoral. Je m'inquiète.
Qui dit quoi?
Qui dit qu'on peut enrôler les enfants par témoignage du chef de village.
Les mineurs émancipés.
Tout ça là, c'est ça qu'on craint. Si on ne fait pas attention, le débordement qui sera dans ce fichier-là, c'est les mineurs émancipés. Les mineurs non émancipés.
Qui vont être pris
parce
en compte.
Parce que les émancipés encore, ils sont pris en compte. Mais les mineurs non émancipés qui seront pris en compte à travers ce fichier. Il ne faut pas que.
Mais est-ce qu'il y a un temps pour auditer le fichier?
Oui, il y a un temps puisque auditer le fichier commence par l'affichage. Même les partis doivent s'impliquer au niveau de l'affichage pour faire des réclamations. Tout le monde, pas les partis seulement, hein, les électeurs peuvent faire des réclamations. Il y a des omissions. Il y a beaucoup de. Je crois qu'il y a quatre étapes dans l'affichage là qui doivent faire l'objet de réclamations. Et c'est là-bas que nous allons inviter les partis politiques, tous bords confondus. Et comme vous pouvez le remarquer, quand je viens sur ce plateau, je ne fais pas abstraction d'aucun parti politique par rapport à la lutte. Je convie tout le monde à vraiment se préparer. Parce que c'est comme ça la démocratie. Pour que la démocratie prévale, il faut que tout le monde mette du sien et qu'on ait l'occasion d'avoir un consensus national sur le fichier. Parce que s'il n'y a pas de consensus, le fichier peut être fait. Après, s'il n'y a pas de consensus encore, ça va être un problème. Donc il faut que nous nous mettions chacun de son côté pour pouvoir suivre pas à pas ce fichier-là et avoir un fichier fiable.
Bana Ibrahim, au niveau de votre parti, le Modène FA Lumana, et du Front pour la restauration de la démocratie et de la défense de la République FRDDR, quelle est votre lecture au sujet du processus d'enrôlement biométrique?
Merci Mokhtar. Avant de répondre à votre question, je vais sacrifier à la tradition de vous remercier au nom de notre parti et de l'ensemble de l'opposition politique, le FRDDR notamment, que nous représentons, pour nous avoir donné cette opportunité de parler d'un sujet extrêmement important et à la fois inquiétant pour nous. Vous savez, dans le processus électoral, l'opposition, depuis très longtemps, a publiquement marqué sa position de ne pas être concernée par tout ce qui se fait. Le fichier biométrique, comme l'a rappelé l'ancien Idéa Demou, ça procède d'abord, je pense que c'était une obligation légale à l'issue de la transition de Saloum Djibo, où il a été mis dans le code électoral pour dire que seules les élections de 2011 pouvaient être faites sur la base d'un fichier manuel. À l'époque, on a dit que les prochaines élections, c'est-à-dire celles de 2016 déjà, devraient être faites sur la base d'un fichier électoral biométrique. Malheureusement, pour des raisons que nous n'avons pas besoin d'étaler, cela n'a pas été le cas. Il y a eu les élections de 2016 dans les conditions que tout le monde connaît. Après, il y a eu un processus électoral bancal, je le dis, parce que ça a été fait avec en l'absence et de l'opposition politique et des partis politiques non alignés, non affiliés. Au début, après, ils ont été rejoints par ces partis-là. Toujours est-il dit que nous, dès le départ, nous avons décidé de nous mettre volontairement en marge d'un processus que nous avons jugé non transparent et non inclusif. Quelle que soit la base, aujourd'hui, ce que je trouve l'ancien Idéa Demou très optimiste, moi. Je le trouve très optimiste, même dans sa critique, parce qu'il a critiqué quand même la manière dont ça va, mais je trouve très optimiste. Une des premières décisions qu'il a rappelées tout à l'heure, basée sur l'article 201 du code électoral, c'est la première menace à la fiabilité du fichier électoral. Parce que, justement, qu'est-ce qui a prévalu à la demande, au consensus de dire qu'il faut un fichier biométrique? C'est pour éviter le vote par témoignage, d'abord. Pour s'assurer que tous ceux qui ont été enrôlés sont des nationaux qui satisfont aux exigences de l'âge pour figurer sur un fichier électoral biométrique. Mais déjà, pour le faire, on avait prévu des opérations foraines d'établissement d'extrait de naissance à tout le monde, justement pour éviter qu'on ne revienne encore au témoignage. Malheureusement, l'opération d'établissement des extraits de naissance, extrait de certificat de mariage, s'est passée dans les conditions que nous savons. Les magistrats n'ont pas voulu, parce qu'ils ont relevé des contradictions avec certaines dispositions de la loi. Sur la base d'un code électoral contesté, on a mis un article 201 qui ne devrait plus avoir sa place dans un code électoral dont le but est de fournir un fichier biométrique. On devrait enlever cela. Autrement dit, un chef de village ou un chef de famille peut venir témoigner pour des milliers de personnes ou pour dire qu'ils sont émancipés ou ils se sont mariés juste sur la base de son témoignage. On les enrôle. Effectivement, il y a une possibilité qui est laissée au moment des affichages des réclamations. Mais nous savons tous que le chronogramme que la CENI avait elle-même établi, aujourd'hui, ils ne peuvent même pas, à l'heure actuelle, respecter ce chronogramme.
Pourquoi, selon vous, ils ne peuvent pas respecter?
Ils ne peuvent pas parce qu'on a déjà, en lançant l'opération, on avait accusé un retard. Chemin faisant, pour des questions d'insécurité, certaines zones ont été... Parce que tout à l'heure, en rappelant les zones, il y a une zone de Tillabéri qui n'a pas été concernée par l'opération d'enrôlement. Il y a une zone de Tawa également. Et aujourd'hui, il y a la diaspora qui n'est même pas à l'ordre du jour, pour le moins. Puisque tous les pays de la diaspora sont en mode confinement. Ou mesures d'urgence et de prévention contre
la maladie du COVID-19.
Tous ces Nigériens risquent de ne pas pouvoir être enrôlés. Si on doit les enrôler, il n'y aura aucun temps entre la fin de l'opération d'enrôlement, l'édiction des listes électorales, leur établissement, leur affichage dans les zones, dans chaque bureau de centre d'enrôlement et de vote, pour que les partis politiques puissent vérifier. Aujourd'hui, quand je vais aller vérifier, je vais regarder que mes militants, voir s'ils figurent. Je ne veux pas vérifier si ceux qui ne sont pas mes militants sont réellement des gens qui doivent voter. Je n'ai pas ce temps-là.
Bana Ibrahim, si pour certains, ces mesures se justifient au regard du contexte sécuritaire et de la maladie du Covid-19, d'autres s'interrogent sur les conséquences de cette suspension, sur la suite du processus électoral. Quelle est votre opinion à ce sujet?
Même le président de la République, Issou Mahamadou, dirige un conseil des ministres, au cours duquel il prend des mesures, il édicte des mesures qui ont une portée générale sur l'ensemble du pays. Le ministre
dans le cadre de la prévention
de la maladie, le ministre chargé de la sécurité publique, Alkash Alada, sur instruction du président de la République, prend un arrêté qui interdit tout rassemblement, sous quelque forme que ce soit.
C'est écrit de plus de 50 personnes.
Non, il y a tout rassemblement, il a dit. Au début, il y avait 50, on l'a enlevé. Pour quelque raison que ce soit, qui s'applique sur l'ensemble du territoire national. Pas seulement Kanyamé. Maître Souna, sur instruction de son ministère de tutelle, le lendemain ou le surlendemain, prend un papier. Il dit, j'encourage les Nigériens à se rendre dans les centres d'enrôlement pour se faire enrôler.
Mais pas à travers un regroupement.
Mais non, il n'a pas dit ça. Il a dit, il les invite à aller massivement. Massivement, ce n'est pas une personne, ce n'est pas deux personnes, ce n'est pas trois personnes. Donc, on a l'impression qu'on est dans deux États qui n'ont pas les mêmes objectifs, qui n'ont même pas la même vision. Voilà, nous, au niveau de l'opposition, l'impression que nous avons.
Si la ligne est bonne, on va aller du côté d'Ambali Dodo. Ambali Dodo, le fichier biométrique électoral, le premier du genre au Niger, devrait en principe être prêt en juillet prochain. Et depuis le début des opérations, plusieurs couacs ont été enregistrés. Et quelle est votre opinion au sujet de ce processus?
Merci beaucoup, M. Mokhtar. Merci au studio Kalangou pour cette initiative noble et afin d'éclairer l'opinion nationale par rapport aux opérations d'enrôlement. Alors, depuis l'avènement de Covid-19, le processus a été interrompu ou il a été perturbé à cause des mesures préventives qui ont été prises par l'État du Niger. Alors, c'est l'histoire qui est en train de rattraper les acteurs politiques. Et parce que quand vous planifiez des actions et que vous ne preniez pas en compte les aléas, il faut vous attendre à des risques d'erreur. Et aujourd'hui, nous sommes confrontés, n'est-ce pas, à d'énormes et d'importants risques qui vont nous conduire inévitablement à des retards par rapport à la conduite du processus électoral. La contradiction que mes prédécesseurs viennent de relever, je suis d'accord et je suis d'avis avec eux, elle remet en cause quand on instaure un couvre-feu, en toute logique, la conséquence juridique serait, n'est-ce pas, de sursoir provisoirement à ces opérations d'enrôlement jusqu'à ce que les libertés publiques et même les libertés individuelles soit parfaitement garanti. Alors, en poursuivant dans certaines localités ces opérations d'enrôlement, la CENI, du coup, elle exclut la transparence de ce processus d'enrôlement. Elle empêche aux acteurs politiques en tant que tels de participer activement à ces opérations d'enrôlement. Et c'est ce qui nous pousse dans un doute profond quant à la fiabilité, quant à la pertinence des résultats de ces opérations d'enrôlement. La zone 1 a permis de relever plusieurs anomalies, ce qui fait que l'enrôlement dans certaines communes, n'est-ce pas, donc se fait en fonction, moi je me demande bien, de la densité de la population électorale favorable à tel ou tel acteur. Alors, dans ces conditions, comment aujourd'hui peut-on être fier et être convaincu de la qualité de ces résultats? Moi, personnellement, j'ai mis des doutes et je m'attends tôt ou tard à ce qu'on ait des obstacles dans ces opérations d'enrôlement. Du moment où, dès au départ, le processus n'avait pas été participatif. D'abord, la non-participation de l'opposition, elle exclut du coup cette qualité de participation générale, n'est-ce pas, donc, au processus d'enrôlement. On aurait pu créer toutes les conditions nécessaires pour faire participer l'opposition. Malheureusement, la majorité a négligé cet aspect.
Ambali Dodo, est-ce que l'opposition a été écartée ou bien de son propre chef, elle a refusé de prendre sa place à la CENI?
Non, moi je pense bien que l'opposition a été écartée du moment où si vous avez posé des préalables auquel votre partenaire refuse de répondre, c'est comme si, n'est-ce pas, donc, la réponse a été négative par rapport aux conditionnalités que l'opposition avait en toute légitimité posée. Nous avons fait des efforts, nous, en tant que non-affiliés, pour tenter de rapprocher tous les blocs, mais nous avons fini par comprendre qu'en réalité, le dialogue politique, aujourd'hui, est devenu le dernier souci, n'est-ce pas, de certains, pas de l'ensemble, mais d'une partie des gouvernants et du Niger. Du moment où, dans leur planification, il me semble, alors on ne veut pas réellement garantir les facilités juridiques et les facilités nécessaires pour que tout le monde se retrouve dans ce jeu électoral.
Alors,
le même scénario auquel on a assisté en 2016, où l'exclusion a été, n'est-ce pas, donc, la première arme utilisée pour disqualifier ou pour réduire les chances à certains candidats. Donc, aujourd'hui, quand vous essayez de voir cette situation, n'est-ce pas, d'insécurité et cette situation d'urgence sanitaire, en réalité, ce n'est que des prétextes. La CENI, auparavant, avait et accusé à peu près 5 mois de retard. Si on ajoute ces 2 mois encore qui vont, ou 3 mois qui risqueraient de venir se greffer au premier mois de retard, ça risquerait de renvoyer les élections à un horizon incertain.
Alors, Ambali Dodo, le réseau des structures de gestion électorale en Afrique de l'Ouest, RESAO, une organisation regroupant les organes électoraux de la sous-région, a envisagé au terme d'une réunion par vidéoconférence le report des échéances électorales prévues en 2020 dans la région en raison de la maladie du coronavirus, indique l'agence de presse africaine APA. Avez-vous d'autres précisions au sujet de cette information?
Alors, au sujet de cette information du RESAO, moi je pense bien que les gens sont en train d'évoluer en tant qu'opportunistes. La maladie et la pandémie de COVID-19, en réalité, quand on essaie de voir les conséquences du point de vue humanitaire, les conséquences du point de vue sanitaire, les conséquences du point de vue même géostratégique, ce n'est pas une menace qui peut aujourd'hui justifier le report des élections. Quand vous faites une lecture des statistiques, du moment où le nombre de décès n'atteint même pas le 1/10 du nombre de guéris, cela veut dire que la menace n'est pas du tout réelle. Le nombre de cas, n'est-ce pas, de COVID-19 rapporté à la population totale du Niger et de chaque nation est également très dérisoire. Ce qui prouve qu'aujourd'hui, si l'État veut réellement organiser les élections selon le calendrier électoral est préétabli par la CENI, il suffit tout simplement d'améliorer les moyens dont la CENI a besoin. Si vous voulez, par exemple, exécuter une activité en utilisant une quantité d'heures équivalente à 10 unités, alors en cas de déprogrammation, il suffit, par exemple, d'utiliser 20 heures de travail, 20 unités, n'est-ce pas, donc, de quantité d'heures de travail, et vous allez réduire la durée de l'exécution de votre activité, n'est-ce pas, donc, vous allez la réduire de moitié. Donc, ce qui veut dire que si réellement l'État veut organiser les élections, selon le calendrier établi, il suffit tout simplement de mettre la CENI dans les conditions nécessaires. Cela sera possible.
Bana Ibrahim, à travers sa rencontre, le RESAO entendait ainsi entamer un dialogue ouvert sur les impacts de la pandémie à coronavirus sur les prochaines élections dans la région. La plupart des participants à cette rencontre a expliqué le texte, a admis des difficultés, entre autres la livraison des matériels techniques, le respect des délais légaux ou le respect des mesures liées à la pandémie du COVID-19 qui pourraient impacter les élections. Toutefois, assure la note, tous ces pays entrevoient des solutions alternatives pour s'en sortir. Quelles peuvent être ces solutions selon vous?
C'est qu'aujourd'hui, la pandémie en soi, qu'elle soit une pandémie, c'est en soi un problème. Je vais vous dire pourquoi. Aujourd'hui, la CENI travaille sur la base d'un logiciel d'une société qui n'est pas basée au Niger, qui emploie des expatriés qui doivent surveiller les machines et tout. Ces personnes-là ne sont plus au Niger depuis le début de la pandémie. Là, ils ont quitté. Deuxièmement, le fait de ne pas pouvoir se déplacer pour Idé Adamou, qui est président de sa section en dehors de Niamey, de ne pas être présent au moment où les agents d'enrôlement sont là, ça réduit la capacité des partis politiques de surveiller les opérations. Il est évident que ce coronavirus, qui est réellement la pandémie, pose une menace grave sur la poursuite du processus d'enrôlement.
Maintenant, quelles sont les solutions que...
Il n'y a qu'une seule solution que nous avons toujours rappelée à Issoufou et à son gouvernement. Les élections, c'est l'affaire de tous les Nigériens, de tous les partis politiques et de toute la classe politique. On ne peut pas faire des élections en ayant à l'esprit, dès le premier jour, de se créer un boulevard pour arriver au pouvoir par les tricheries. Il faut.
Mais pendant ce temps, que faites-vous au niveau de l'opposition?
Au niveau de l'opposition, nous étions convaincus dès le départ, même sans coronavirus, nous étions convaincus qu'il y aura un moment de blocage. Parce que nous,
alors maintenant, il y a blocage. Quelle est la solution selon vous?
La solution se trouve entre les mains du président Issoufou. Nous avons dit, il n'y a pas longtemps, qu'il faut un dialogue politique inclusif pour trouver les moyens de sortir forcément de la crise. Nous n'allons pas accepter, et ils le savaient, que même sans le coronavirus, nous n'allions pas accepter d'être maintenus à l'écart. Aujourd'hui, avec le coronavirus, c'est encore Issoufou Mahamoud qui a la clé. Demain, s'il prend un décret, ou à la fin du mois de juillet, parce qu'il a déjà fait voter une loi qui instaure un état d'urgence sanitaire jusqu'au 11 juillet, qui interdit normalement toute manifestation politique, même les réunions des bureaux politiques, ils sont capables de les interdire parce que l'Assemblée nationale leur a voté une loi qui leur permet de le faire. Donc, que ce soit avant ou après le Covid, ils seront obligés de convoquer toute la classe politique dans son ensemble et qu'on se parle le langage de la vérité. De toutes les façons, ceux qui n'ont pas été fait avant, ils seront obligés de le faire aujourd'hui.
Adam Ouidé, en Afrique de l'Ouest, 5 élections présidentielles en Côte d'Ivoire, au Burkina, Ghana, Guinée. Et le premier tour au Niger devrait se tenir au cours du dernier trimestre de 2020 et durant le premier trimestre de 2021, Bénin et Gambie. Et quels sont les obstacles ou encore les difficultés pouvant entraver le bon déroulement de ces élections?
Merci Mokhtar. Et je voudrais rebondir sur la relance, n'est-ce pas, du processus...
Du dialogue.
Non, la relance du processus d'enrôlement, interrompu à un moment. Mais aujourd'hui, je crois que le président de la CENI s'est prononcé pour qu'on relance les activités d'enrôlement.
Dans la région de Tillabéri, il y a une partie de...
Oui, tout à fait. C'est pour vous dire que nous, partis politiques, notre inquiétude est que la CENI ne soit pas une CENI qui prend en compte une position sans les autres positions. Il faut une CENI indépendante. Aujourd'hui, je crois que si on a relancé l'enrôlement biométrique, c'est que la CENI a pris ses responsabilités. Ce qui est, pour les partis politiques, une très bonne chose. Parce que le Covid-19 ne doit pas être une panacée pour, n'est-ce pas, bloquer le processus de l'enrôlement biométrique. Sinon, on a beaucoup d'inquiétudes par rapport au futur, n'est-ce pas? Donc, aujourd'hui, il faut rappeler aux gens que le processus est repris et que les gens n'ont qu'à aller à leur site d'enrôlement pour se
en
faire.
Respectant les mesures,
les en respectant les mesures, même en allant, je crois que le début, nous tous, c'est sur les 50 personnes que nous avons misées en ce qui concerne la limitation des rassemblements. C'est ce que tout le monde connaît. Aujourd'hui, quand on va au niveau de l'enrôlement, on ne va jamais trouver 50 personnes. On va trouver peut-être les partis politiques et quelques gouttes de personnes qui viennent un à un pour se faire enrôler. Donc, on n'atteindra même pas, nous n'avons pas d'inquiétude qu'on n'atteindra même pas les 50. Donc, il faut, pour les partis politiques, nous qui suivons, nous, c'est le processus qui doit continuer. Et Dieu merci, la CENI, parce que la CENI, ce n'est pas seulement le président de la CENI.
La CENI, c'est les autres membres qui doivent aussi, nos représentants qui seront interpellés à tout moment par nous, qui doivent suivre le processus d'enrôlement. Je crois que là, c'est une très bonne chose. Maintenant, par rapport à votre question, je pense qu'il y a une situation d'aléa qui est là. Peut-être que c'est cela.
La
qui
maladie.
Du COVID-19. C'est ça qui veut inquiéter, n'est-ce pas, les partis membres, plutôt les pays membres de la CEDEAO, les pays membres de l'IOMOA et autres organisations nationales ou internationales. Je crois que, à ce sujet, l'entente doit provenir plutôt des pays.
Les solutions à l'interne.
Oui, c'est l'entente, c'est ça que j'ai dit. Bien, ça doit provenir des. Tout à l'heure, Banal a dit. Il y a combien de temps que les Nigériens ont ouvert les yeux et les oreilles sur le dialogue politique? Nous avons vu les grandes personnes, les leaders de nos partis politiques qui sont venus, on les a étalés. Si ce dialogue-là ne tient pas, c'est qu'on les envoie dans le mensonge. Ils ont parlé. Je crois que chacun a émis son déshydratant pour que puisse, n'est-ce pas, avoir lieu ce dialogue politique. En ce moment de crise, quand on parle de crise, c'est une mesure exceptionnelle qui doit interpeller des solutions.
Selon vous, quelle est cette mesure exceptionnelle?
C'est le dialogue politique, il l'a dit. Je suis de mèche, complètement de mèche avec lui sur ce propos, à ce sujet. Puisque en politique, nous ne sommes pas en guerre. Non, nous ne faisons pas de la politique opposition à part, majorité à part, et non affiliée à part pour nous quereller. Non, nous œuvrons pour le pays. Nous œuvrons pour le développement de ce pays-là. Donc il faut que, pour œuvrer ensemble pour le développement du pays, il faut qu'on vienne s'asseoir sur la même table et s'entendre. Et ça devrait relever du président de la République, comme il l'a dit, bien sûr. Je crois que c'est avec ce dialogue politique seulement qu'on peut avoir des conclusions, et peut-être que ces conclusions-là seront relayées au niveau des instances internationales. C'est comme ça que ça devrait marcher. Mais ce n'est pas tout de go que les instances internationales s'élèvent pour dire ceci, pour dire ceci. Non, là, il y a immixtion grave. Moi, je ne veux pas que dans notre souveraineté, qu'il y ait des immixtions qui vont essayer de venir embrouiller les choses. C'est comme ça que je vois ça.
Ambali Dodo, quels sont les enjeux et les défis du Niger pour la bonne organisation des futures échéances électorales à venir au Niger?
Alors, on peut commencer par les défis. Le premier défi d'abord pour le Niger, c'est de pouvoir respecter le chronogramme électoral, et de mettre à la CENI, à la disposition de la CENI, les moyens nécessaires pour pouvoir exécuter ce chronogramme et de parvenir à garantir une alternance politique de manière démocratique, participative et inclusive. Au regard de ces enjeux, alors les menaces qu'on peut essayer aujourd'hui de relever, c'est d'abord les conséquences juridiques, les conséquences politiques, les conséquences sociales, etc., de cette pandémie de COVID-19. Et d'autre part, la rupture du dialogue politique que mes prédécesseurs viennent d'évoquer constitue également une véritable menace au processus électoral. Nous avons récemment participé à une tentative de relance du dialogue politique, malheureusement qui a avorté du fait d'un manque de volonté politique. Aujourd'hui, à nos yeux, tout est clair. Nous savons quel acteur politique aujourd'hui ou quels sont les acteurs politiques qui ne sont pas favorables à ce dialogue politique, et nous connaissons parfaitement les raisons. Si vous allez observer avec moi que ce dialogue-là ne verra jamais le jour avant la fin du processus d'enrôlement. C'est-à-dire qu'on attend jusqu'à ce que toute la population électorale soit enrôlée. En ce cas, on reviendra pour négocier l'opposition et probablement les non-affiliés n'est-ce pas, qu'on est en train aujourd'hui de paralyser. Ce qui veut dire que la transparence de ce processus-là, aujourd'hui, fait défaut. Et aujourd'hui, si le Niger est prêt à vendre sa souveraineté face à une demande du Rezao de reporter les élections générales, moi, je pense bien que c'est une chose extrêmement grave. Le contexte sociopolitique du Niger est totalement différent de ceux des autres pays de la sous-région. Du moment où le Niger, depuis l'avènement de la démocratie, a toujours connu une crise sociopolitique de manière chronique. Donc, les solutions à apporter à cette crise chronique doivent différer de celles des autres pays qui ont connu une certaine stabilité. Ce qui nous pousse aujourd'hui à remettre en cause de manière inévitable l'aboutissement de ce processus électoral dans des conditions équitables ou dans des conditions souhaitées par l'ensemble des acteurs politiques.
Nous risquerons... Oli Dodo, quelle solution préconisez-vous rapidement?
La solution, c'est la relance du dialogue politique de manière sincère. Parce que vous avez vu, au départ, on avait été convaincu de la sincérité de ce dialogue politique. Mais c'était sans pour autant connaître, n'est-ce pas, le fond des acteurs politiques. Ça ne sert à rien d'aller à un dialogue politique qu'on voit suspendre du fait de la mésentente entre X et Y. On doit tenir un dialogue au nom de l'intérêt de toute la nation.
On doit tenir
un dialogue politique pour sauver la démocratie et sauver pratiquement le Niger.
Merci Ambali Dodo. Bana Ibrahim, quels sont vos conseils, recommandations, propositions de solutions?
Moi, je pense...
Rapidement, en une
oui,
minute.
En une minute, je vais dire, il faut que la classe politique arrête de se voiler la face. Il y aura un jour, un moment, et le plus vite, le plus tôt serait possible, qu'on se pose des questions, les vraies questions. Nous, au niveau de l'opposition, nous avons déjà posé ces questions depuis fort longtemps. Mais moi, personnellement, j'ai parcouru le chronogramme de la CENI. Le chronogramme, je l'ai étudié date par date, il y a une semaine de cela. À l'heure actuelle, la CENI est incapable de respecter son chronogramme.
Ouais, quelle solution il faut proposer?
Donc, la solution, je l'ai dit, il n'y a pas 2036 solutions. Il faut que toute la classe politique s'assoie et que la CENI arrête. Elle ne peut pas tenir des élections dans les conditions actuelles, des élections qui seront transparentes.
Mais c'est des experts qui ont élaboré un
aujourd'hui même leur chronogramme qu'ils ont lancé, ils ont accusé un grand retard sur ce chronogramme. Et alors que dès le départ, il y a même pas une semaine de marche qui avait été prévue en cas de retard lié à des aléas comme Ambali l'a dit. Aujourd'hui, ce n'est pas une honte pour Issoufou Mahamadou qui est président de la République de prendre la robe du père de la nation et d'appeler tous les partis qu'on s'entende qu'est-ce qui va être fait au cas où à la date prévue par la Constitution, on n'arrive pas, pour quelque raison que ce soit, à respecter le programme de la CENI.
Un dialogue.
Un dialogue inclusif et sincère.
Adam Ouidé, vos propositions de solutions, rapidement.
Moi, mes propositions seraient très pragmatiques. Hein. C'est-à-dire que la relance de l'enrôlement biométrique actuellement est en train de soulever quelques vagues. Vous suivez les réseaux sociaux. Et ça, c'est inquiétant pour un parti politique qui rêvent d'accéder au pouvoir. Ou en nuitamment, c'est les agents enrôleurs qui font des enrôlements par triche. Ça circule dans les réseaux sociaux. Ça, c'est une grande inquiétude. Il faut que la CENI surveille. Il faut que la CENI veille sur ces agents enrôleurs-là. C'est très, très important ce que je dis. Maintenant, par rapport au chronogramme, mais il faut reconnaître que franchement, je dis, sans état d'âme, qu'il est difficile, vraiment,
vous êtes
quand
pessimiste.
On fait le constat. Ah, je suis pessimiste comme eux, en ce qui concerne le respect du chronogramme. Vu vraiment certaines situations exceptionnelles.
L'insécurité, la maladie.
Oui, justement, c'est ça les situations exceptionnelles. Ce n'était pas prévu.
Il y a des situations exceptionnelles. Faisant, quelles sont les solutions exceptionnelles?
Les solutions exceptionnelles, je crois que l'opposition a eu à le dire.
Les
noms de l'affilié l'ont dit. Et moi, je l'ai dit avant eux. Il faut un dialogue politique qui rassemble tous les partis politiques et peut-être par groupe, je ne sais pas, mais il faut, ça s'impose. C'est déjà en vue. Les Nigériens ont suivi ça, tout le monde était content quand on a vu à la télé nos leaders assis en train de vouloir organiser un dialogue politique.
Voilà, il y a du devoir donc et de la responsabilité du gouvernement nigérien de prendre toutes les dispositions qui s'imposent pour que tous les citoyens remplissant les conditions requises puissent être enrôlés sur le fichier biométrique en conformité avec les mesures édictées par les autorités sanitaires dans le cadre de la lutte contre la maladie du Covid-19. Nous sommes au terme de ce forum d'Issidio Kalangou. Je rappelle que nous avons invité la CENI, mais aucun représentant n'a pris part à ce forum. Nous avons eu le plaisir de recevoir Adamou Idé, secrétaire à la communication du bureau politique national du MNSD Nasara, un parti politique de la mouvance au pouvoir. Bana Ibrahim du Modène FA Lumana, membre du Front pour la restauration de la démocratie et de la défense de la République FRDDR. Et au téléphone, Ambali Dodo, président du CPNP Afrikawa, également président de la coalition des non-affiliés. Merci à nos invités et à vous tous pour votre fidélité au programme d'Issidio Kalangou qui vous parvient grâce à nos 41 radios partenaires. Merci aussi à la technique côté son assurée par Seni Isaka et côté vidéo Ayuba Mustapha. Merci, au revoir.